Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Et donc, merci d'être là pour la présentation d'un livre qui est sorti à la Fabrique. C'est un livre collectif sorti en octobre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui Maxime Benatouille, un des contributeurs. On trouve une liste de... Vous avez dû regarder le livre, vous l'avez déjà acheté. Mais il y a quelques contributeurs et contributrices prestigieuses aux côtés de Maxime. Je lui laisserai le soin de présenter le travail dans sa globalité. Et je laisserai le soin à Assia et à Basile des éditions Premier Matin de Novembre d'animer la rencontre, de poser des questions. Puis ensuite, on vous laissera un temps de parole et d'échange avec Maxime. Les rencontres sont enregistrées. Vous les retrouvez sur notre site en podcast. Alors pour l'instant, il y a eu des petits problèmes techniques, mais d'ici quelques semaines, vous retrouvez l'intégralité des enregistrements depuis 5 ans. On vous encourage à faire connaître. Et ce soir, donc, ce sera aussi enregistré. Donc, merci Maxime de venir de loin, de Paris. De Caen, là. Voilà, mais merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à tout à l'heure.
Merci Fabrice. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Fabrice nous a légèrement introduit, mais je vais le refaire. Je m'appelle Assia Al-Kasmi et je suis éditrice aux éditions Premier Matin de Novembre, une petite maison d'édition qui traite d'anti-racisme et d'anti-impérialisme. Je suis ici avec Basile Mouton, qui est syndicaliste, compagnon des éditions Premier Matin de Novembre et compagnon de route des luttes anti-racistes depuis 20 ans maintenant. Et on est très content de recevoir Maxime Benatouille qui va venir nous présenter le livre « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ». C'est un livre collectif, tu as écrit un article dedans, mais on va revenir sur l'intégralité du livre si tu es OK. Hop là. Pour poser un peu le cadre et le contexte du livre, la première question c'est... Attends, non, je ne t'ai pas introduit. Tu es professeur d'économie de sciences sociales. Tu es auteur et tu es membre du bloc juif décolonial. Tu es membre de TSEDEC et de l'UJFP. Et la première question, c'est est-ce que tu peux nous présenter TSEDEC et l'UJFP et comment ces organisations ont vu le jour et quelles sont leurs différences?
Bonsoir tout le monde. Merci d'être là si nombreux. Il y a des noms prestigieux sur la couverture du bouquin. Bon, ce n'est pas le cas pour moi, donc je vous remercie d'autant plus d'être venu. Donc, tu l'as dit, Assia, je milite au sein de ce que j'appelle le bloc juif décolonial, qui rassemble notamment deux principales forces, que sont l'Union juive française pour la paix et le collectif juif décolonial, TSEDEC. L'UJFP a une histoire beaucoup plus ancienne que TSEDEC, j'y reviendrai brièvement, mais en gros, l'UJFP a un nom que moi, à titre individuel, je trouve un peu cheesy, un peu naïf, un peu... Mais qui s'inscrit dans une temporalité particulière qui était celle des accords d'Oslo. À un moment où, d'ailleurs, les fondateurs et fondatrices de l'association n'étaient pas ouvertement, clairement, et tous et toutes antisionistes. Hein, ça, c'est un processus aussi qui a pris le temps de voir le jour et qui est bien évidemment corrélé à l'approfondissement colonial et d'apartheid de la situation en Palestine historique. Donc l'UJFP, voilà, c'est une association qui rassemble des militants juifs et juives, mais pas que, pour vraiment militer en solidarité avec la Palestine en tant que juif. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant, ou ça va faire 10 ans que je milite au sein de cette association. J'avais besoin, à une certaine époque, quand je commençais moi-même à consolider ma trajectoire de désionisation, parce que je viens du sionisme de gauche un peu, moi, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais, et j'avais besoin d'une maison politique, et j'avais besoin d'être formé par des vieux de la vieille, parce que ça rigole pas toujours à l'UJFP, hein, c'est carré, c'est efficace, et moi ça a été une super instance de socialisation politique. J'ai pu militer avec des gens comme Michel Ciboni, Pierre Stamboul, Dominique Natanson, Rodolphe Bécouche. Malheureusement, je l'ai à peine connu, mais il a écrit un super texte sur le philosémitisme d'État que je vous conseille de lire. C'est disponible sur le site de l'Union juive française pour la paix. Vraiment, c'est super. Et donc, du coup, TSEDEC est beaucoup plus récent, mais sans l'UJFP, il n'y aurait pas eu de TSEDEC. Je pense que l'UJFP a permis de créer une culture politique juive décoloniale et antisioniste qui a rendu possible l'émergence d'un mouvement plus jeune. Ce qui est très intéressant avec la création, pour moi en tout cas, ce qui est très intéressant avec la création de TSEDEC, c'est que celles et ceux qui sont à l'origine du projet, il y a des anciens militants de l'UJFP, de la section jeune de l'UJFP, qui n'a jamais été décrété comme tel, mais on était grosso modo 5 à avoir moins de 40 ans. Donc on était, pour les anciens, on était la section jeune. Et avec aussi d'autres camarades et camarades issus des luttes sociales qu'on avait pu croiser dans nos parcours militants respectifs et qu'on avait envie de faire autre chose. Et cette autre chose, c'était de prime abord, alors vous avez peut-être vu, on a fait quelques émissions sur PDH qu'on appelait Haola Mazeh, c'est-à-dire ce monde-là, en hébreu, avec toujours une perspective d'essayer de le transformer. Et il y avait une volonté de parler davantage de nos cultures juives, de nos judéités, de nos identités diasporiques colonisées par le sionisme, etc., etc. Donc, très rapidement aussi, il y a eu une autre activité culturelle à TSEDEC qui sont toujours d'ailleurs les ciné-clubs. Vraiment, ça, donc à Paris et en région parisienne essentiellement, ça fonctionne très très bien. Le format, vous connaissez certainement, c'est un film qui va être ensuite discuté par une figure militante, académique, etc., etc. Voilà, donc peut-être la distinction entre les deux organisations, alors faut le dire, hein, c'est vrai, il y a une question d'âge, il y a une question de génération. Moi, je suis jeune chez TSEDEC. Non, pardon, malheureusement, non. Je suis jeune à l'Union juive française pour la paix, mais on m'appelle tonton chez TSEDEC. Voilà, l'âge, c'est toujours relatif. Mais au-delà de cette question de génération, il y a la volonté aussi peut-être de s'intéresser davantage à nos trajectoires juives plurielles. Mais avec l'irruption du génocide contre Gaza, évidemment, on parlait de nos petits nombrils, comme ça, aussi intéressant soit-il, c'était plus à l'heure du jour, donc ça reviendra, on l'espère, mais quand il y aura davantage de justice en Palestine. Et juste, je conclue là-dessus, je suis désolé, je suis long, je suis un peu fatigué, mais je vais me recadrer. Il y a des très belles coopérations UJFP de TSEDEC. Il y a des coopérations strictement militantes. Chaque samedi, chaque manif, il y a un bloc juif décolonial, il y a une banderole commune, donc on fait ça ensemble. Et on a fait deux gros événements qu'on cartonnait. Au mois de mars dernier, on a fait un meeting juif international antisioniste avec des organisations sœurs de toute l'Europe, mais aussi d'Israël et des États-Unis. Et là, je ne peux pas dire, parce que je n'étais pas dans l'organisation et malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais toutes les captations vidéo sont en ligne. Un colloque pour penser le fait génocidaire à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, et pour faire des liens aussi, pour historiciser un peu la question du judéocide et faire des liens avec d'autres génocides passés, présents, et voilà.
Merci Maxime. J'en profite pour dire qu'il y a une section de TSEDEC qui est née à Toulouse il y a quelques semaines et qu'il y a des camarades qui se trouvent dans la salle. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et d'elles si vous êtes intéressés. Voilà, là, au fond. On va revenir sur le contexte de la publication du livre. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée de ce livre est née et ce qui a motivé sa publication C'est tout.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de ce livre s'est imposée avant le 7 octobre. Parce qu'il y avait des déjà là qui se sont approfondis évidemment et aggravés depuis le 7 octobre avec cette séquence politique qui s'est ouverte le 7 octobre. Mais en gros, l'idée, c'était de réagir à un double événement. Premier événement très concret, c'était l'annulation par la mairie de Paris d'une conférence avec Judith Butler au Cirque Électrique qui était co-organisée par le GFP, TSEDEC et par le QG des Coloniales. Donc il y avait le nom de la sorcière dans Ouria Boutelja, ma camarade et co-autrice du bouquin dans le comité d'organisation. Et donc c'est ce qui a, comme d'habitude, hein, c'est ce qui a permis hein, de faire taire, de réduire au silence des voix des coloniales non-juives et juives. Au nom, je cite, de mémoire, je crois, de la sécurité des Juifs. Hein, voilà, c'est alors qu'il y avait quand même beaucoup d'organisations juives dans cet événement. Donc, il fallait réagir par rapport à ça. Et puis, à l'origine, cet événement-là, donc, qui a dû être annulé par la mairie de Paris, parce qu'elle a en fait menacé de couper les subventions hein, pour le Cirque Électrique, c'est pas plus compliqué que ça, s'imposait aussi pour éviter la corbinisation de Mélenchon. En gros, l'idée, c'était d'éviter que le dirigeant politique le plus conséquent sur la question palestinienne et sur la lutte contre l'islamophobie, qui n'est pas pour autant révolutionnaire, hein, mais voilà le dirigeant de gauche le plus conséquent, éviter qu'il soit marginalisé, sali, etc. Et voilà, donc il fallait éviter à tout prix un scénario britannique pour la gauche française. Et donc, bah voilà, cette idée, elle a germé de cette double raison-là. Et pour ma contribution, alors moi, c'est un peu à part, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai une commande très, très spécifique de la part de la fabrique qui était de taper sur les sionistes de gauche de façon conséquente. Donc, je me suis donné à cœur joie et on y reviendra. Non, je me tais.
Alors, la question, donc la prochaine question qu'on voulait te poser, c'était donc sur l'actualité, si je puis dire, de l'antisémitisme. L'islamophobie, par exemple, c'est assez simple hein, de montrer de la part de l'État et du pouvoir. Les manifestations donc via des discours récurrents, via des lois donc islamophobes à l'encontre des musulmans et des musulmanes et il me semble que c'est un petit peu autre chose sur la question de l'antisémitisme au niveau du pouvoir, je le répète, parce qu'il ne semble pas y avoir de persécution, du moins légale, sur les communautés juives. Mais pour autant, on sait que l'antisémitisme, il est quand même constitutif du pouvoir et de l'État français. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les différences qu'il peut y avoir avec l'antisémitisme d'il y a un siècle, par exemple ? Et est-ce que tu considères qu'il y a un cadre autorisé de l'identité juive, je dirais, dans ce sens-là ?
Alors, ce que je peux dire rapidement, peut-être, parce que ça, c'est une question qui mériterait beaucoup d'heures. Et très honnêtement, moi, je le dis devant vous, c'est pas forcément le champ vis-à-vis duquel je suis le plus à l'aise. Mais bon, quand même, je peux donner quelques éléments de réponse. L'antisémitisme racial à la papa, qui s'est soldé par le judéocide nazi, bon, ça, il est plus tenable en l'État, évidemment. Et rapidement, après 1945, les bourgeoisies européennes collaborationnistes ont dû réagir. Et une nouvelle forme d'antisémitisme, plus policée, plus déguisée, a vu le jour, et ce qui a permis aussi à ces bourgeoisies européennes collaborationnistes de se refaire une virginité à ce titre-là, a vu le jour, et donc c'est la déclinaison philo-sémitisme d'État. Donc c'est une racialisation un peu positive des juives et juifs de France, mais cette racialisation positive, elle a des limites. C'est-à-dire que pour que les juifs et les juifs de France soient racialisés positivement, il faut qu'ils restent dans le rang. Il faut qu'il reste dans le rang de la République bourgeoise et impérialiste. Il faut qu'il reste dans le rang du sionisme réellement existant. J'en veux pour preuve un exemple très très récent, que ce soit en France avec notre trésorier hein, qui est un petit peu le responsable légal de l'association condamné pour, enfin, en procédure pardon, pour apologie du terrorisme suite à un des communiqués de l'association post 7 octobre, parce que d'après la circulaire Dupond-Moretti du 10 octobre, hein, contextualisé, c'est déjà excusé, et donc c'est vivre sous une épée de Damoclès et être éventuellement condamné pour apologie du terrorisme. Il y a ça. Et en Allemagne, par exemple, on a vu des policiers allemands cogner sur des juifs ultra-orthodoxes anti-sionistes à la marge d'une manifestation de solidarité avec la Palestine, ce qui n'a créé aucun émoi, ce qui est d'autant plus particulier qu'on sait qu'en Allemagne, la question juive, ou plutôt moi je l'appellerais la question judéo-sioniste, est largement instrumentalisée par l'État. Mais dès qu'on sort de cette assignation à être de bons juifs alignés sur les intérêts de la bourgeoisie impériale européenne et du sionisme réellement existant, l'antisémitisme d'État peut réémerger sous des formes modérées, qui prendront pas l'habit d'une politique publique, par exemple, mais quand même. Mais on pense, et c'est Ouria Boutelja, d'ailleurs, dans sa contribution, qui l'explique très bien, que le philosémitisme est, pour paraphraser Macron sur autre chose, est une forme réinventée de l'antisémitisme, pour le coup, et qu'elle permet aussi aux bourgeoisies européennes collaborationnistes, je l'ai dit, de déplacer leur responsabilité historique dans l'ensauvagement antisémite qui a conduit donc à la Shoah sur les épaules des Palestiniens. Et en plus, ça fait d'une pierre deux coups. Parce que fondamentalement, cette bourgeoisie reste structurellement antisémite et elle partage avec le sionisme l'idée que les juifs sont mieux ailleurs qu'en Europe, à savoir en Palestine. Voilà. Et j'ai pas fait le lien avec l'islamophobie, pardon.
C'est pas grave, on va y revenir. Maxime, selon toi, est-ce qu'on peut différencier les antisémitismes de la droite et de l'extrême droite ? Je pense notamment à Macron qui voulait rendre hommage à Maurras, honorer la mémoire du grand soldat Pétain, etc. etc. Et un antisémitisme, je pourrais dire, de la gauche globale.
Ouais, moi, j'aime pas parler d'antisémitisme de gauche, en fait. Ça, bon. Alors, premièrement, l'antisémitisme d'un Macron qui va réhabiliter Pétain, alors pas tout Pétain, mais le Pétain de la Première Guerre mondiale, et puis pas tout Maurras, mais celui bon, c'est le même, c'est la même matrice idéologique que l'antisémitisme d'un Jean-Marie Le Pen, par exemple, comment s'appelle ce journal d'extrême droite que je vois tous les samedis dans mon supermarché encore, là, j'en peux plus, non, ce vieux truc là, Rivarol. Rivarol, d'ailleurs, ça c'est intéressant, peut-être qu'on en reparlera, parce que Rivarol, c'est ultra minoritaire à l'extrême droite aujourd'hui, c'est-à-dire que eux, c'est un peu la ligne de Soral, c'est-à-dire c'est une instrumentalisation antisémite de l'antisionisme. Hein, les choses sont inversées, ça fait beaucoup d'instrumentalisation à l'envers, on va être perdu, mais il faut le dire, et c'est minoritaire à l'extrême droite, ça. Et du coup, je sais plus ce que je disais, je suis désolé.
La différenciation.
Ouais, voilà. Donc c'est une chose. Pour ce qui est de la gauche, alors oui, à gauche, il peut y avoir des moments antisémites, des prises de parole antisémites, parce que la gauche, comme nous tous ici, on est pris dans des rapports sociaux de domination dans notre société, qui par ailleurs est structurellement raciste, sexiste, classiste, validiste, homophobe, etc. Donc si vous tous ici vous êtes purs et parfaits ou purs et parfaites, c'est très bien, mais on n'est pas tous et toutes à l'abri de sortir sans faire attention une dinguerie sexiste, antisémite, islamophobe. Enfin, je veux dire, bon, il faut qu'on travaille, faut qu'on s'améliore, mais l'idée que on serait pur et parfait, c'est un mythe. dans une société qui est traversée par autant de dynamiques de discrimination. Voilà. Donc effectivement, Mélenchon, par exemple. Alors moi, j'ai pas eu assez de place dans mon chapitre pour parler de la côté obscur de Jean-Luc. Mais moi, j'aime bien Mélenchon, hein, je le dis. Hein. Mais c'est vrai que bah oui, il a dit de la merde parfois. Mais j'en ai parlé avec la fabrique et ils me font attends, c'est bon, si les gens veulent voir toutes les conneries qu'on puisse sortir Mélenchon là-dessus, ils ont qu'à allumer France 2, Valeurs Actuelles, enfin toute la presse publique, privée, peu importe, qui s'en donne à cœur joie. Donc je ne l'ai pas fait. Néanmoins, il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer par la socialisation catholique de Mélenchon, par plein de choses, quand il a fait référence au peuple déicide, hein, avec, bon, oui, c'est pas parfait. Mais dire que il y a un soupçon permanent d'antisémitisme à gauche, c'est un moyen justement, et c'est ce qui se caractérise de nouvel antisémitisme, hein, c'est un moyen de jeter le discrédit, de disqualifier, d'étiqueter comme antisémite des forces politiques qui essayent à minima de faire appliquer le droit international en Palestine et qui essaie de prendre fait et cause pour le peuple palestinien. Donc il y a une instrumentalisation sioniste très très forte de l'antisémitisme. Et il n'y a que quand on est matrixé soi-même, quand on est socialisé soi-même à cette idée de l'antisémitisme-là, comme si on critique après tout le caractère colonial de l'État d'Israël depuis 1948, c'est qu'on est antisémite. Alors là, oui. Là, on peut dire que, du coup, Mélenchon, il est clairement antisémite, ou que la France insoumise est clairement antisémite, ou que le NPA est clairement antisémite. Mais quand on... Et c'est pour ça qu'il y a des batailles sémantiques très importantes, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce bouquin-là, pour peser dans la bataille culturelle. Hein. Si on a une autre conception de l'antisémitisme, comme c'est notre cas à nous, eh ben, on constate que l'antisémitisme, il est à droite, il est à l'extrême droite, et même il est au sein de la bourgeoisie, mais il n'est pas à gauche. Alors évidemment, à gauche, parfois, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais ça, comme partout, voilà.
En fait, ça fait une transition parfaite pour la question suivante, qui est donc la question de l'instrumentalisation. Tu parles dans ton article de l'évolution justement de la définition de l'antisémitisme. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment l'extension du périmètre de sa définition, elle sert en fait à contrer justement les positions anti-sionistes et à contrer la défense du peuple palestinien en fait ?
Israël est une création des Nations Unies. Mélenchon. Macron s'est fait taper sur les doigts par Netanyahou parce qu'il a rappelé cette vérité dans un moment de lucidité rare. Ça arrive à tout le monde, hein, pourquoi pas lui aussi. Israël est une création des Nations Unies. Il y a tout un processus historique qui le démontre, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et donc, au moment de l'avènement de l'État d'Israël, il y a une sympathie hein, qui souffle sur le jeune État juif démocratique qui fait fleurir le désert, etc., au sein des fractions les plus favorisées de la société civile occidentale. Mais le problème, c'est que David se transforme en Goliath quand, en 67, Israël l'emporte contre... les pays arabes coalisés. Et pourtant, il y avait, alors moi j'en veux pour preuve pas plein d'histoires familiales, il y avait au sein des Juifs de France, et notamment chez mes parents qui avaient 16-17 ans à l'époque, une peur panique de voir l'État d'Israël disparaître. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément sionistes, mais face à cette menace, puis à cette propagande qui en fait disait « Ah là là, attention, il y a tous les États arabes qui sont coalisés contre l'État d'Israël, il peut disparaître, etc. » Mon père, par exemple, a essayé d'aller... il est allé au consulat ou à l'ambassade d'Israël à Paris pour s'enrôler. Bon, comme il n'était pas majeur, heureusement, ça ne l'a pas fait. Puis son père, donc mon grand-père, est arrivé, lui a mis une benne, lui a mis une bonne tréra, justement, pour dire « Non, là, c'est bon, faut pas déconner, c'est pas ta guerre. » Mais bon, donc tout ça pour dire qu'il y avait quelque chose. Mais très vite, ce mythe du David hébraïque contre les méchants Goliath arabes, ça ne tenait pas la route parce qu'il y a eu un nouvel accaparement de terres palestiniennes, et pas que palestinienne, parce qu'il y avait aussi le Golan syrien, le Sinaï égyptien, etc. Bon. Donc, le petit État d'Israël chétif, il y avait plein de comparaisons à l'époque entre les Juifs du ghetto de Varsovie, l'État d'Israël, etc. Bon, ça, ça tenait plus debout. C'était plus objectivement faisable comme comparaison. Et donc, l'image d'Israël au sein des opinions publiques, notamment du Sud global, s'est vraiment détérioré. D'autant que, si j'ai dit un peu plus tôt qu'Israël était une création des Nations Unies, bah c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde au sein des Nations Unies. C'était quand même très blanc, très, très colonial, très entre soi. Voilà. Donc forcément que... Alors, il y a eu la trahison soviétique, hein, mais forcément que ça a massivement voté pour la partition de la Palestine. Moi, je n'aime pas parler de partage. C'est l'expression consacrée en français, mais en anglais, c'est partition, et c'est beaucoup plus neutre et clair, parce que sinon le partage, ça donne l'impression qu'on dit, bah tiens, toi tu prends ça, moi je te donne ça, puis on est frères sémites et c'est très bien. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc l'image d'Israël se dégrade au point que des États au sein des Nations Unies se coalisent pour faire adopter une résolution en 75 qui caractérise le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination raciale. Alors l'heure est grave pour Israël et il faut à tout prix éviter que ça fasse tache d'huile pour l'Occident. Et c'est à ce moment-là, notamment sous la plume de Abba Eban, hein, c'est ce que je raconte un petit peu dans le bouquin, qu'on compare pour la première fois l'antisémitisme classique qui refuse l'égalité des droits aux juifs parce que juifs au sein des sociétés, avec le nouvel antisémitisme, hein, justement, qui refuserait au peuple juif, attendez, il faut que vous compreniez bien la logique, qui refuserait au peuple juif le droit à l'autodétermination. Donc, Israël serait le juif collectif parmi les nations. Ce serait la seule raison pour laquelle on critiquerait l'État d'Israël. Rien à voir avec la spoliation, la dépossession, les massacres de masse qu'il a menés depuis 1948 à l'endroit des Palestiniens. Non, ce serait du pur antisémitisme. Alors, l'idée est là. Ça a pris beaucoup de temps pour devenir hégémonique, mais ça l'est devenu. Les détails sont dans le bouquin, c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait, pour permettre à Israël d'étendre son projet de colonialité, fallait instrumentaliser l'antisémitisme pour qu'on puisse pas le critiquer et pour qu'Israël reste indéfiniment l'état des victimes du national-socialisme donc un État qui serait ontologiquement innocent, ce qui est impossible, évidemment, en situation coloniale.
C'est moi ? Oui, c'est moi, pardon. On va rentrer dans le cœur de ton texte sur la gauche sioniste, Maxime. Est-ce que tu penses que la fonction de la gauche sioniste, comme nous, ça a pour but de contrer l'influence grandissante d'un antiracisme politique voilà, fin de la question. Conséquent.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, là où j'aurais un doute, c'est parce que quand on regarde les prises de position de certaines organisations, que je qualifie moi de sionistes de gauche, et notamment, je pense à la plus à gauche d'entre elles, les JGR, hein, Juives et Juifs Révolutionnaires, ils ont toujours eu envie d'en être. C'est-à-dire, ils ont toujours eu envie de faire partie de l'antiracisme politique. Ils ont participé aux Grandes Marches pour la Dignité. Ils font des tribunes, ils essayent de faire des coopérations pour lutter contre l'islamophobie, etc. Donc moi, je pense plutôt...
Mais ça n'empêche pas, tu peux être idiot utile.
Ouais, mais je pense que leur objectif, c'est plutôt, en fait, on continue d'être embarrassé, et donc de ne pas prendre position parce qu'on serait trop embarrassé sur l'antisionisme et le sionisme. Moi, je pense vraiment que leur bail, c'est ça. Je pense que ce qu'ils cherchent à faire, c'est faire en sorte que ce que je qualifie, moi, d'antisionisme égalitariste ne progresse pas au sein de l'antiracisme politique et qu'on continue de penser, oh là là, Israël, c'est compliqué, la Palestine, c'est... Enfin, et puis, on n'est pas obligé de prendre position sur tout. Voilà. Bon, je pense que c'est plutôt ça. Et je pense qu'ils flippent que la France insoumise s'antisionise, que les syndicats... Il faut savoir qu'au sein du camp de l'émancipation, maintenant, il y a une vraie bagarre entre Jonas Pardo de Golem, notamment, qui essaye de vendre hyper cher d'ailleurs, ces formations de lutte contre l'antisémitisme à tous les syndicats. Mais et on voit bien que nos conceptions de l'antisémitisme ne sont pas du tout les mêmes. Et vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est de faire taire toute critique radicale de l'État d'Israël pour qu'on se cantonne, et c'est pour ça que c'est l'aile gauche du bloc sioniste, mais j'y reviendrai, à une critique de ce que fait Israël depuis 67, mais pas touche à 48, en gros.
Mais en fait, je suis à la CGT, justement, et j'ai pu voir à l'œuvre... les camarades, notamment les deux qui ont écrit Don Jonas Pardo, qui ont écrit Petit manuel
contre l'antisémitisme.
Petit manuel contre l'antisémitisme. Et ce sont des personnes, ressources, vers qui les organisations en fait se tournent pour être formées sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Donc il y a quand même un vrai enjeu. Et d'influence dans le camp du progrès social, on va dire. Et mais voilà, enfin, je veux dire, ils occupent le terrain de plus en plus, quoi.
Mais nous aussi, il y a un duo de choc et de charme avec Olivier Lec Laferrère de l'Union juive française pour la paix et Monier Amoun de la campagne BDS France. Ils sont tous les deux basés à Saint-Étienne, je crois. Et ils font plein de formations super sur l'antiracisme et sur la lutte contre toutes les formes de racisme. Et aussi sur le mouvement BDS et pour la solidarité avec la Palestine. Et en plus, ils sont gratuits. Donc, passez le mot aussi au sein de vos syndicats respectifs. C'est de bien meilleures personnes aux ressources. Et en plus, qui ne coûtent pas cher, vu qu'ils font ça pour la cause.
On a juste... notre syndicat, localement, a fait appel à eux, justement. Alors... Super. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un manque dans mon organisation sur les questions antiracistes. Mais donc, simplement pour dire qu'ils seront là, c'est en mai, je ne saurais plus vous dire, mais on aura une organisation, enfin, l'organisation d'une formation en interne, et je crois qu'ils interviendront un soir en mai. Je suis désolé d'être aussi imprécis que ça. Si j'arrive à trouver la date, je vous la donne après.
Maxime, est-ce que tu penses qu'on peut parler d'une mise en concurrence par le pouvoir d'État avec l'islamophobie?
Clairement. Enfin, disons que l'État pratique à la fois l'islamophobie d'État et le philosémitisme d'État. Et ça, évidemment, c'est jamais dit tel quel, de manière aussi explicite. Jamais le bloc bourgeois au pouvoir, Macron ou Valls avant lui, dirait « Oui, coucou, nous avons... décidé de mettre en concurrence les communautés et donc nous pratiquons formellement l'islamophobie d'État ainsi que le philosémitisme d'État. Néanmoins, c'est quand même très objectivable et ça peut s'observer dans divers événements, diverses situations. L'événement le plus récent qui montre à quel point l'islamophobie elle est ancrée dans les plus hautes instances de l'État et le philosémitisme aussi, c'est cette fameuse marche pour la République et contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023. Je ne sais pas si vous avez lu l'appel de cette marche. Je ne pense pas parce qu'il était disponible qu'en ligne sur le Figaro. Donc, il fallait payer. Donc, moi, j'ai un copain journaliste, heureusement, donc, qui m'a donné quelques codes. Mais c'est quand même assez incroyable que pour une grande manifestation nationale, l'appel soit sur la presse de droite payante. Mais bon, ça, voilà, fin de la parenthèse. Et quand on regarde cet appel, tout y est. C'est-à-dire que... Il y a une importation du conflit israélo-palestinien, alors qu'eux n'ont que ce mot à la bouche là, il faut lutter contre l'importation du conflit israélo-palestinien, alors que c'est eux-mêmes qui la pratiquent, en appelant qu'à la seule libération des otages israéliens. Alors bien sûr, on ne mentionne pas les otages palestiniens détenus sous le régime unique de la détention administrative, mais on... À minima, il n'y a rien non plus sur les Palestiniens de Gaza sous les bombes. Au novembre 2023, donc au moment où a eu lieu cette manifestation, il y avait déjà plus de 10 000 morts à Gaza. Et bien, pas un mot, comme si il n'existait pas. Deuxièmement, la seule source d'antisémitisme identifiée dans cet appel, c'est l'islamisme. Et pas un mot non plus sur l'explosion de la parole et des actes islamophobes, hein, qui ont été largement documentés aussi, juste moins médiatisés. Donc voilà, juste, il n'y a qu'à observer. Et puis, tous les racistes, respectables au sens de la bourgeoisie respectable, hein, que ce soit la Macronie, que ce soit les Républicains dont les sénateurs avaient voté le 8 novembre l'interdiction de l'AME, etc. Donc tous les racistes respectables peuvent se faire une virginité antiraciste en participant à cette marche contre l'antisémitisme, mais qu'ils soient islamophobes, qu'ils se battent par exemple, comme c'était le cas pour Éric Ciotti depuis de longues années, pour interdire aux mamans voilées de participer à des sorties scolaires, etc. Donc, qui est cette islamophobie-là ? Tout le monde s'en fout, voire de toute façon, elle est valorisée par les principaux acteurs de cette manif-là. Voilà, donc je pense qu'il faut analyser en fait chaque situation et voir quelles sont les positions des uns et des autres pour constater qu'il y a un philosémitisme d'État qui est toujours conjugué avec une islamophobie d'État. Et je précise juste que nous, les Juifs, on n'a jamais demandé à être les enfants chéris de cette République-là. Et d'ailleurs, que ce soit de CEDEC ou à l'Union juive française pour la paix, on n'a pas envie d'être les enfants chéris de cette République-là.
Alors, il y a... Enfin, on n'a pas pu s'empêcher de faire un parallèle donc, entre la sortie des deux livres qui, en fait, ils sont sortis quasiment en même temps, en une semaine près. Donc, contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations et donc Petit manuel contre l'antisémitisme. Il y a dans un des chapitres donc, qui est consacré aux sionistes de gauche selon tes termes, mais dans leur livre, il y a un chapitre entier sur Tzedek et l'UJFP.
Nous sommes les Juifs d'exception.
Exact. Alors donc ça veut dire que tu as lu le livre ou l'article.
C'est chiant. J'en ai lu des morceaux.
Alors juste, bon, il y a donc cette partie, l'extrait, je me permets de te le lire, de vous le lire. Cependant, l'UJFP et Tzedek vont plus loin que la simple critique de l'orientation politique des institutions juives. Le discours et les pratiques développées par ces deux organisations tendent à désigner tous les juifs qui ne partagent pas l'intégralité de leurs orientations comme des « mauvais juifs », entre guillemets. De ce fait, ils se comportent auprès des gauches comme des juifs d'exception ou « bons juifs », toujours entre guillemets, authentiques et véritables, en construisant une ligne de démarcation entre eux et des mauvais juifs, lesquels seraient infectés par une idéologie inauthentique propre au judaïsme, le sionisme. Par sioniste, ils désignent l'ensemble des juifs qui ne partagent pas leur complaisance face à l'antisémitisme, indépendamment de leur vue sur Israël et la Palestine, des juifs qui se définissent comme anti-sionistes ou asionistes, mais refusent l'antisémitisme d'où qu'ils viennent, sont invariablement qualifiés de sionistes de gauche par l'UJFP. Qu'est-ce que tu as à dire de ça ?
Bah, qu'il était temps qu'on couche par écrit, parce que là, c'est signé de ma plume, mais je m'appuie évidemment sur des années de travaux militants de camarades, sur des lectures communes, partagées, débattues, etc. Mais il était temps qu'on couche par écrit des définitions claires de ce qu'on entend par sionisme, antisionisme, sioniste de gauche. Et pour moi, le sionisme, enfin, ce qui permet, 76 ans après l'avènement de l'État d'Israël, de distinguer le sionisme de l'antisionisme, ou un sioniste d'un antisioniste, c'est pas le fait qu'il soit juif ou non. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Là, ce sont des grands menteurs, des grands mythomanes. Mais je reviendrai sur eux juste après. Pour moi, ce qui fait l'antisionisme... Alors, je sais pas s'il y a une question là-dessus après, pour pas que je... C'est pas non plus la question de la configuration étatique. C'est pas un État commun, deux États. Moi, par provocation intellectuelle, pour faire penser, je dis même que sous condition, on peut être pour les deux États et être quand même antisioniste. Alors, quoi, comment ça, etc. Et si j'ai eu cette réflexion-là, c'est parce que justement, je m'engueulais régulièrement, avant qu'il me bloque malheureusement, avec un des grands militants de JJR, dont je tairai le nom, peu importe, et que je connais bien parce qu'il était chez nous avant, à l'Union juive française pour la paix, mais pas très longtemps. Et il me disait, non, mais vous, de toute façon, TEDEC, LFI, l'UJFP, le NPA, etc., en fait, vous êtes sioniste de gauche aussi. Donc ça ne veut rien dire, parce que vous n'êtes pas contre une présence juive en Palestine historique. Ben oui, frérot, mais là, ce que tu confonds, c'est présence juive et souveraineté juive exclusive. Déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Et sinon, même, que dire du Hamas, qui depuis la réforme de sa charte en 2017, a fortiori encore plus depuis les négociations qu'il a menées avec le Fatah en 2020-2021 pour organiser un renouvellement, une élection visant à renouveler la présidence de l'autorité palestinienne, hein, qui est trustée par Mahmoud Abbas depuis trop longtemps, mais qui a été évidemment annulée par celui-ci sous la pression d'Israël. Là, c'est une super histoire aussi, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, le Hamas dit, c'est pas, on n'est pas très content, mais ce qu'on demande, c'est une revendication sur les frontières de 67. Donc les deux États, en gros. Donc le Hamas est-il sioniste ? Non, ce serait complètement stupide et je pense qu'on peut tous s'accorder ici pour dire que non, le Hamas n'est pas sioniste, clairement. Bon, alors c'est pas ça. Du coup, on s'est gratté la tête et moi je pense que ce qui fait le sionisme et l'antisionisme, c'est le position qu'on a tout un chacun, vis-à-vis du droit au retour pour les descendants des réfugiés palestiniens de 48 et de 67 expulsés de Palestine, expulsés de chez eux. Nous, juifs, en une nuit, on peut avoir la citoyenneté israélienne pleine et entière, en une nuit, et s'installer, se mouvoir dans tout l'espace de la Palestine historique, from the river to the sea, partout, du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Quelqu'un comme Rima Hassan, par exemple, ne le peut pas. Déjà, pour qu'elle puisse mettre le pied en Israël, maintenant c'est mort, mais avant, déjà en tant qu'arabo-palestinienne, ça aurait été très compliqué et elle aurait été fliquée tout le long si elle avait pu, etc. Mais elle aurait certainement eu aucun visa. Donc pour moi, c'est ça ce qui fait la différence entre le sionisme et l'antisionisme. Nous, on est pour l'extension du droit au retour à tous les réfugiés palestiniens. Et Pardo et sa bande de joyeux drills, eux, ne parlent jamais du droit au retour des Palestiniens. Jamais. Alors, j'ai tout épluché. Alors, pour la première fois, il y a un communiqué de JGR qui en parle un tout petit peu, mais j'y reviendrai parce que c'est très croustillant et je pense que c'est une victoire du bouquin, d'ailleurs. Mais quand j'ai écrit contribution, il n'y avait aucun mot sur ce droit au retour pour les Palestiniens. Et la raison, elle est très simple. C'est que ces gens-là se revendiquent de gauche, progressistes, dans les luttes sociales, dans le camp de l'émancipation, tout ce que vous voulez. Mais tenir une position nationaliste et raciste qui serait dire on n'aimerait pas qu'il y ait trop d'Arabes en Israël parce que ce serait plus juif, c'est intenable. Donc ils n'en parlent pas. Mais le fond de l'affaire, c'est ça. J'en reviens à eux, là. Nous, on n'a jamais... On ne donne des brevets à personne. Je peux penser, moi, à titre individuel, que je suis un meilleur juif que Jonas Pardo, mais je n'en fais pas une ligne politique et je ne me permettrai jamais de lui dire. Ça ne veut rien dire, c'est raciste. Ce n'est pas mon sujet. Absolument pas. Par contre, Pardo est raciste quand il dit ça. Il, en faisant de nous des juifs d'exception... Il nous isole du reste du corps social juif, comme si le corps social juif, d'ailleurs, était un tout homogène. Il y a un super bouquin qui a été écrit par trois camarades femmes de l'Union juive française pour la paix, Antisionisme, une histoire juive aux éditions Sileps, et qui montre bien que les premiers antisionistes étaient juifs, tous religieux, marxistes révolutionnaires, mais ils étaient juifs. Okay ? Donc nous, on s'inscrit dans une vieille... tradition et eux aussi, eux s'inscrivent dans la tradition de Yitzhak Rabin, de la paix maintenant, Shalom Arshav, qui sont des sionistes de gauche qui veulent la séparation avec les Arabes et surtout, mon Dieu, pas trop d'Arabes chez nous. Voilà, mais ils n'assumeront pas cette ligne politique là, mais c'est leur tradition. Nous, notre tradition, elle est tout autre, c'est celle de l'égalité radicale, et c'est pour ça que je parle d'antisionisme égalitariste. Et on fait de la politique, et eux font de la politique, sauf que moi, quand je les critique, j'ai des vraies citations. Tout est documenté, vérifiable, etc. Eux, quand ils nous trachent, là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est du fantasme. C'est leur vision des choses, ou alors peut-être qu'ils le font de manière très... consciente, ça j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais c'est pas du boulot.
Merci Maxime. Sur les 10 dernières minutes qui nous restent, parce que le temps file, on va essayer de parler un peu d'enjeux de stratégie de lutte en tant que militant antiraciste. Est-ce que tu penses que pour lutter efficacement contre l'antisémitisme, il faut lutter à la fois contre l'antisémitisme, le sionisme et l'islamophobie ? Et comment ça se traduit dans tes organisations de lutte, s'il te plaît ?
Alors moi, j'ai envie de donner deux réponses, une perso et une plus globale. C'est-à-dire que moi, en fait, si j'ai cette obsession sur le sionisme de gauche, c'est parce que je l'ai dit un peu plus tôt, j'en viens et j'ai vraiment l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, en fait. Qu'on m'a trahi. Oui, mais et donc, du coup, moi, j'ai envie de faire un sort à ce courant sioniste de gauche là qui prétend pouvoir articuler progressisme, antiracisme et soutien à l'État d'Israël plus ou moins tel qu'il fonctionne depuis son avènement, en revenant à la marge hein, sur la colonisation des territoires depuis 67. Évidemment, je pense que toutes les luttes antiracistes doivent être menées de front. C'est hyper important. Et en plus, comme le dit très bien, encore une fois, Ouria Boutelja, lutter contre l'islamophobie aujourd'hui, c'est aussi lutter contre l'antisémitisme. Parce que les interdictions des signes religieux, j'aime pas trop parler comme ça, je trouve que ça va mieux quand ça sort de sa bouche. Moi, ça fait vraiment très utilitariste dans ma conception de l'antiracisme. Mais lutter contre l'islamophobie, donc contre l'interdiction des signes religieux musulmans, c'est aussi lutter pour protéger le droit des juifs de porter leur kippot. C'est parce que sinon, on va aussi être affecté par ça. Tous les débats hein, qui sont anciens et qui ressortent régulièrement sur l'abattage rituel, etc. Ça concerne aussi les lois de la cacheroute. Et donc, il y a plein de points d'entrée en commun. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, nous, juives et juives, dans nos communautés, c'est renverser la proposition fanonienne. Fanon disait, s'adressant grosso modo aux Noirs et aux Arabes, quand on parle des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Il faut qu'on dise à nos frères et sœurs juifs dans nos familles, c'est compliqué, hein, mais dressez l'oreille, quand on parle des Noirs, des Arabes et des musulmans et des Roms, comme ça, on parle de nous, en fait. Mais ça, pour que ça devienne entendable, il faut d'abord qu'on se désionise. Et je sais que c'est dur, moi ça m'a pris des années, mais il faut qu'on se désionise, qu'on arrête d'avoir peur quand on entend « Free Palestine » ou alors « Libération de la Palestine ». Ça veut pas dire « jeter les Juifs à la mer ». C'est pas vrai. Ça, c'est un mythe sioniste pour conserver le statu quo colonial. Et c'est incroyable qu'à gauche, comme ce porte-parole du RAR, dont le nom même est problématique, un réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Hein, tous les racismes ont toutes les formes de racisme ont une histoire singulière et sont singuliers. Tous sont le produit d'une histoire particulière, évidemment, et donc ont leur propre singularité, etc. etc. Mais quand quelqu'un qui est très influent à gauche, hein, qui était à Ensemble pendant des années, je crois qu'il continue à l'être, etc., dit la libération de la Palestine, ça veut pas dire autre chose qu'une Palestine libérée des Juifs. Il y a du boulot. Même si alors, des gens qui se revendiquent à gauche pensent ça, imaginez ce qu'il en est. Alors moi, je vois toute ma famille qui n'est pas politisée. Et donc, vous savez aussi bien que moi ce que ça veut dire ne pas être politisé, c'est-à-dire être de droite, hein, clairement. Et donc, si même des gens qui se revendiquent de gauche pensent ça, alors on a vraiment un gros boulot à faire dans nos communautés, parce que je pense qu'on ne pourra pas lutter ensemble avec d'autres contre l'antisémitisme, contre l'antitsiganisme, contre la homophobie, contre la négrophobie, etc., si on ne désionise pas en premier lieu l'antisémitisme, si on ne lutte pas contre l'instrumentalisation sioniste de l'antisémitisme, si on ne se réapproprie pas, ce signifiant qu'est antisémitisme. Donc, on a du boulot, mais on est déterminé.
Eh bien, merci. On a terminé nos questions. On va passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main. Il faut que quelqu'un se lance en premier pour que les autres... vous savez comment ça fonctionne.
Bonsoir. J'ai du mal à comprendre la différence entre antisionisme et antisémitisme. Je pense que l'antisionisme, ça semble bien, l'antisémitisme, ça semble mauvais, mais je vois mal la différence entre les deux. Une première question, une deuxième question, comment voyez-vous une solution à ce problème en Palestine qui, D'ailleurs, je crois, vous avez parlé de la guerre de 67, je crois qu'il y en a eu une dès le départ en 49 aussi. Hein.
48.
48, même 48, hein, c'est encore mieux. Voilà.
Merci pour votre présentation. Moi, j'avais le souvenir d'une communauté juive plutôt de gauche, en tout cas pendant longtemps, avec les kibbutz, avec le Bund, tout ça. Donc, bon, avec, il me semble, des organisations comme ça qui étaient quand même très en pointe sur le combat politique. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus? Est-ce que ça veut dire que c'est silencé? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus la place pour le dire? Moi, je suis assez étonné d'avoir l'impression qu'il y a comme un retournement. Alors, je ne sais pas si c'est un retournement dans un politique ou si c'est juste qu'on ne les entend plus. Mais comment faire pour soutenir justement ces points de vue qui étaient quand même particulièrement progressistes pour le coup?
Bah, je vais prendre les questions à l'envers du coup. Alors, dans ta question, en fait, il y en a deux. Enfin, il y en a une principale et puis je dirais un mot aussi sur les kibbutzim. Oui, il y a une droitisation très forte des communautés juives occidentales. Tout comme il y a eu une droitisation très forte des sociétés occidentales. Déjà, je pense qu'il y a ce premier mouvement-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Enzo Traverso, alors le nom de son bouquin m'échappe là, c'est concis. La fin de la modernité juive ou quelque... Ouais, bon. En tout cas, il y a un super penseur d'un bouquin que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas trop en parler. Mais je sais que c'est super bien, puis j'ai lu d'autres trucs de lui, je l'aime beaucoup. Mais il a beaucoup travaillé sur la question, justement, de la fin du progressisme juif authentique. Voilà, donc il faudrait peut-être que je me colle à la lecture de ce bouquin, de ces quatre. En tout cas... Je pense aussi que la droitisation, je le disais à l'instant, qui suit celle de la société, elle est renforcée par le fait qu'il y a une sionisation très forte. Et je la comprends. Même pour nous, juifs antisionistes, on ne va pas se mentir, Israël, ce n'est pas le Sri Lanka. J'ai beaucoup de respect pour le Sri Lanka, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas la Suède, ce n'est pas... On a de la famille là-bas, tous, quasi. On a des proches là-bas, tous, quasi. C'est pas neutre. Donc, quand ça pète là-bas, on a peur. On peut s'inquiéter pour les nôtres, etc. Bon. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et forcément, Israël, depuis le début, se vit, socialise sa population comme celle d'un État forteresse assiégé. De toute façon, tout le monde nous déteste. Pour nous massacrer, on nous massacrera encore si on massacre pas les premiers. Voilà, c'est quand même ça l'idéologie qui est au cœur du système scolaire israélien, qui est au cœur de l'armée israélienne, qui est au cœur de toutes les instances de socialisation israélienne. Donc oui, ça finit par jouer aussi sur des communautés diasporiques de plus en plus sionisées. Donc il y a une bagarre à faire pour faire comprendre déjà qu'en fait. Il y a un collectif judéo-israélien national qui existe, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas, c'est comme ça, c'est là. Bon, après, faut étudier aussi un peu ce qui s'est fait en Afrique du Sud, ce qui s'est fait en Algérie, parce que la valise et le cercueil, c'est pas vrai. En Afrique du Sud, les blancs sont restés. Donc, c'est pas parfait. C'est encore capitaliste. Hein, donc, la lutte n'est pas finie. Mais les judéo-israéliens, moi, je pense qu'ils pourront rester que s'ils acceptent. Là, je cite Orlinoy, une super journaliste israélienne décoloniale qui est devenue la présidente de l'association. Qui s'appelle Beth Selem, qui documente les violations israéliennes dans les territoires palestiniens occupée, donc violation israélienne des droits des Palestiniens, qui dit en fait ça suffit pas juste de vouloir vivre ensemble ou de, parce qu'à l'époque quand elle a écrit ce papier, c'était en 2017, il y avait un mot d'ordre dans les sionistes de gauche israéliens qui disait juifs et arabes refusent d'être ennemis. Ils disaient bah c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce qu'on devrait dire, c'est nous juifs, on refuse d'être les maîtres. Et après, on peut éventuellement penser à d'autres façons de partager la souveraineté, etc. Donc il y a du boulot. Et c'est pour ça. Et donc la solution pour Israël, Palestine, déjà faut lutter contre un génocide. Faut lutter contre le fait que les bombes israéliennes sont des bombes occidentales. Faut lutter contre le fait, que les mots sont galvaudés en permanence, que l'antisionisme justement est perçu comme de l'antisémitisme. L'antisionisme, c'est juste une opposition à une idéologie qui vise à créer un État juif en Palestine arabe. C'est ça, en fait. Donc, on a le droit d'être contre une idéologie politique. Et en plus, pour moi, c'est ce que j'essaie de démontrer dans le texte. Le sionisme, c'est pas une idéologie politico-nationale achevée avec la création de l'État d'Israël. C'est un processus continu. Comme la Nakba, c'est l'envers de la Nakba. C'est pas fini, la Nakba. Là, avec les bombardements génocidaires contre les Palestiniens de Gaza, il y a eu plus de Palestiniens qui ont dû fuir leur maison que pendant la guerre de 48. Il y a eu plus d'annexions de territoires. On fait des conférences pour voir comment on va pouvoir se réapproprier Gaza. Mais même au sein d'Israël même, le sionisme continue. C'est moins su, mais au sein d'Israël même, il y a 20% de la population qui est palestinienne. Il ne faut pas croire qu'ils habitent ensemble et que c'est génial et que waouh, non. La quasi-intégralité des Palestiniens d'Israël sont dans deux endroits du pays, sont dans le Negev Nakab et en Galilée. Même là, ils n'ont pas le droit de construire des villages. C'est la croix et la bannière pour retaper son toit. Il y a de plus en plus de nouvelles localités juives qui sont créées ou qui sont interdites, même pour la location, interdite aux Arabes palestiniens. Donc le sionisme, c'est un processus continu et les effets du sionisme, c'est la Nakba. Et ça, c'est pas fini encore du tout. Et les kibboutzim, juste, c'est vrai que c'était la gauche, c'était vu d'une manière assez idéaliste au sein des gauches blanches occidentales. Mais c'était des avant-postes qui était conçu aussi pour éviter que les Palestiniens chassés reviennent sur leur terre. C'était des avant-postes qui étaient construits sur des villages palestiniens détruits. C'était des avant-postes qui refusaient, qui étaient très juifs ashkénazes et qui refusaient pendant très longtemps qu'il y ait des juifs arabes qui viennent s'y installer parce qu'ils sont vulgaires, parce qu'ils prononcent les haïnes, parce qu'ils mangent bizarrement et parce qu'ils ressemblent à l'ennemi. Donc les kibboutzim, c'est pas quelque chose... c'est bien quand on est juif ashkénaze, voilà. Mais bon, c'est pas un modèle, absolument pas.
Je voulais ajouter simplement, concernant les juifs arabes, ils étaient appelés les juifs des grottes. Ouais. Enfin, les juifs des grottes, ils étaient appelés, oui, ceux du Maroc et tout ça. Ouais. Et ce que vous dites à propos concernant les villages, les villes en Galilée et tout ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il n'y a pas une Nazareth, il y a deux Nazareths. Oui. Il y a la Nazareth où il y a des musulmans et des chrétiens palestiniens. Il y a une autre Nazareth, ils appellent ça la Nazareth haute, et qui a été créée sur l'expropriation des terres palestiniennes.
Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est haute. Elle est au-dessus pour surplomber toujours la Nazareth indigène et pour que dans leur quotidien, ils voient toujours flotter au vent les immenses drapeaux palestiniens. Moi, je suis allé là-bas déjà, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ouais. Ouais. Donc c'est des deux côtés de la ligne verte en fait, c'est ça.
Bonsoir, du coup, merci d'être venu, c'était bien. Et du coup, vous avez parlé d'une petite victoire de la JJR.
Ah oui. Oui.
Du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
Ah, avec plaisir.
Je me permets de reposer mes deux questions, mais je n'ai pas entendu la réponse. Quelle est la différence entre antisionisme et antisémitisme? Et quelle solution voyez-vous à ce conflit?
Alors, l'antisémitisme, très rapidement, c'est une forme de racisme. Non, vas-y, tu veux donner la question.
Bonsoir, merci d'être venu. J'ai une question toute simple. Est-ce que le sionisme n'est pas finalement un antisémitisme en ce qui collabore avec le philosémitisme d'État et qu'il enferme le juif dans un pacte d'État racial, d'État-nation voilà.
Alors, je te remercie pour ta question parce qu'en plus, comme ça, ça va me permettre de faire le lien avec les premières questions que j'avais mal traitées. Effectivement, l'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui s'en prend à des juifs parce qu'ils identifient comme tels et qui cherchent à les discriminer ou à apporter atteinte à leur intégrité physique et morale. Bon. En cela, c'est une forme de racisme comme n'importe quelle autre. Hein. Voilà. Y a une histoire particulière, hein, mais bon, là, je rentre pas là-dedans. L'antisionisme, c'est une opposition à une idéologie politique. C'est l'opposition à la création d'un État juif sur des terres arabo-palestiniennes. Voilà, en fait. Et le problème, la grande confusion, c'est que de plus en plus, et c'est ce que j'essayais d'écrire et dans le bouquin et un peu plus tôt avec vous ce soir, c'est que on a intégré la critique, d'ailleurs plus ou moins radicale, de l'État d'Israël dans le périmètre de la notion de l'antisémitisme. C'est-à-dire que maintenant, critiquer Israël, on peut nous faire valoir d'être considéré comme un antisémite. Et au contraire, défendre Israël peut nous positionner comme étant un acteur légitime dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme. Les sionistes de gauche disent que si la France insoumise a refusé de participer à la mascarade de la marche du 12 novembre, elle a laissé une place vacante, et cette place vacante a été prise d'assaut, comme ça, par l'extrême droite. Bon, c'est un peu facile, et surtout, ça ne tient pas la route comme analyse. Serge Klarsfeld, donc le fils des légendaires chasseurs de nazis, tweet en mars 2024 et apporte un élément de réponse beaucoup plus tangible, qui dit, en fait, que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été des alliés inconditionnels d'Israël depuis le 7 octobre, et donc ils mériteraient d'être invités au dîner du CRIF. Et donc on arrête, oui, bon, les détails, etc. D'ailleurs, on peut maintenant faire des saluts nazis, même un double salut nazi, là je pense à Elon Musk le jour de l'investiture de Trump, et dire oui mais non, il voulait envoyer un cœur, oui mais il est Asperger, oui mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un grand soutien de l'État d'Israël. Donc à partir du moment où on soutient l'État d'Israël, c'est un totem d'immunité sur l'antisémitisme, mais si on critique l'État d'Israël, on devient soit antisémite, soit des juifs honteux ou des juifs d'exception. Et donc, voilà, donc j'espère avoir été un peu plus clair. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme. L'antisionisme, c'est une opposition à l'idéologie constitutive d'un État raciste de colonialisme, de peuplement qui a pris des terres qui ne lui appartenaient pas. Et la petite victoire sur les JJR. Alors, du coup, de prime abord, j'étais un peu emmerdé parce que là, dans le dernier communiqué des Juifs et Juifs révolutionnaires, ils parlent du droit au retour des Palestiniens. Je dis merde. Donc tout ce que j'ai écrit, en fait, c'est faux. Oh là là. Et en fait, non. Alors, je pense que, sans me jeter trop de fleurs, je pense qu'en fait, ils ont plus le choix. Il faut qu'ils prennent position sur cette question-là. Et en plus, ils le font. Alors, c'est vraiment savoureux. Moi, je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est-à-dire qu'ils disent pas juste on est pour le droit au retour des Palestiniens. Ils disent la chose suivante. On est pour le droit au retour des Palestiniens et pour le droit au retour des juifs arabes dans leur pays d'origine. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet argument-là, il est utilisé par la Hasbara, par la propagande d'État israélienne, depuis très longtemps, de manière à faire croire qu'en fait, ce qui s'est passé en Israël-Palestine, ou entre les juifs arabes et les arabes palestiniens, c'est la même chose que ce qui s'est passé entre les Grecs et les Turcs dans les années 20, où il y a eu le premier transfert massif de population. Hein, les Grecs orthodoxes d'Asie mineure ont dû quitter la Turquie, ce qui était devenu la Turquie moderne, et les musulmans turcs ont dû quitter ce qui était devenu la Grèce moderne. Il y a eu comme ça plus d'un million de populations respectives de part et d'autre, hein, qui ont donc des nettoyages ethniques coordonnés, avec l'exemple indo-pakistanais là qui est encore plus massif. Bon, donc l'argument sioniste c'était de dire ah bah ouais, il y a eu peut-être 800 000 Palestiniens qui ont dû partir, mais il y a eu 800 000 Juifs arabes qui ont dû partir, donc on est quitte. Les Palestiniens, enfin moi je viens d'une famille juive d'Algérie par exemple. Bah, les Palestiniens ils sont quel rapport déjà, enfin voilà. Et puis même, est-ce que nous descendants de juifs d'Algérie, descendants de juifs tunisiens, est-ce qu'on s'est organisé politiquement depuis des années pour retourner à Alger, pour retourner à Carthage, pour retourner, je ne sais, non. Alors moi j'ai très envie d'y aller, mais c'est vrai, mais j'ai pas envie d'y vivre. Moi ma vie maintenant elle est ici. Et puis je sais très bien que l'État d'Israël joue un rôle dans l'exode de ma famille d'Algérie, et que le colonialisme français aussi joue un rôle dans cet exode-là. Donc, c'est une victoire en demi-teinte. Mais donc, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'ils ont été obligés de se positionner, mais ils ont inventé quelque chose de nouveau. Donc, s'il y avait une nouvelle édition du livre, peut-être que je l'écrirais comme ça. Ils ont une conception sioniste de gauche du droit au retour des Palestiniens. Et leur conception sioniste de gauche du droit au retour des Palestiniens, c'est de dire ok pendant au retour des Palestiniens, mais si et seulement si il est assorti aussi d'un droit au retour qui n'a jamais été demandé pour les descendants du Farabe vers l'Arabie, on ne sait où, enfin voilà, vers leur pays d'origine. Donc c'est quand même, enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut, comme disait Sartre, faire de la politique en situation et en fonction des prises de position dans des événements donnés, on peut catégoriser les uns et les autres avec, bien sûr, toujours des limites intrinsèques à cette idée de catégorisation. Mais là, pour le coup, ils ont été vachement créatifs, les JIGR, et ils ont créé une conception sioniste de gauche du droit au retour des réfugiés palestiniens. Fallait le faire.
Moi, j'ose à peine dire mon état d'âme parce que j'ai peur que ça soit mal compris. Mais dans toute cette histoire, alors, quelle place faire à la juste critique des religions? J'ai peur que ça soit mal compris. C'est pour ça que j'osais pas le dire. Mais, par exemple, l'islamophobie, pourquoi pas critiquer la religion de l'islam? Pourquoi pas critiquer la religion catholique, quand ça n'est pas privé? Pourquoi pas critiquer la religion juive? C'est le grand absent, quand même, ça, dans nos discours.
Une autre question ?
Bonsoir, merci pour l'exposé, pour les questions. C'était très intéressant. Moi, j'avais une réaction plutôt, c'est aussi une remarque sur le fait que la situation en Israël, telle qu'elle, elle est aussi instrumentalisée par le bloc occidental pour réécrire l'histoire. Au sens où, si on pense à l'histoire de la persécution des juifs et des juives, l'histoire de l'antisémitisme, dans les faits, c'est une histoire essentiellement occidentale. Ça s'est passé en Occident, en Europe principalement. Actuellement, on entend plutôt qu'il y a une incompatibilité entre les juifs et les juives et les populations musulmanes dans les pays arabes, que c'est par essence. Et on entend même des responsables occidentaux qui vont jusqu'à dire que les juifs et les juives ont de tout temps été persécutés dans le monde musulman, dans le monde arabe, ce qui est plutôt faux en comparaison à... Enfin, je nie pas l'existence peut-être de persécution, mais par rapport à ce qui s'est passé en Europe, c'est plutôt faux. Et je pense qu'on peut dire que... Enfin, je pense aussi à une réécriture même de l'histoire immédiate, quand Netanyahou déclare en 2015 que... la Shoah a été soufflée par le grand moufti de Jérusalem. Donc il y a une alliance vraiment objective et qui va dans le sens de cette fameuse théorie complètement fumeuse, mais que malheureusement on entend dans les grands médias, du choc des civilisations. Voilà, donc c'est juste une remarque. Merci.
je voulais vous... concernant les juifs concernant les juifs arabes, il y a eu aussi l'agence juive et puis il y a eu le Mossad qui ont fait que voilà, par exemple on prend le cas de en Irak où le Mossad a détruisait des synagogues en disant regardez ce que vont vous faire les Irakiens. Bon. Et puis deuxièmement concernant votre histoire à propos de votre père, c'est ça?
Ouais.
Bon. Qui voulait partir en 67. Mais il y avait quand même en 67, il y avait beaucoup de juifs français qui sont allés se battre pour défendre Israël, il y avait cet élan là. Alors pour revenir monsieur parler de ce qu'on a commis dans les pays arabes. Oui, il y a eu des atrocités commises, ça, parfois avec la bénédiction du protectorat français au Maroc. Je suis originaire de ce pays. Donc, si vous voulez, à Azrou, à Oujda, où il y a eu des massacres. Concernant le Mufti, il ne faut pas oublier le Mufti, il était carrément pro-Hitler. Mais il y a eu des manifestations palestiniennes, là, on n'en parle pas, qui ont manifesté contre la position du Mufti. Et il y a eu, bien sûr, El-Khalil en arabe et Hébron, où il y a eu des massacres des Juifs commis par des Palestiniens. Mais en même temps, il y a eu des Palestiniens qui ont sauvé des Juifs français, des Juifs palestiniens, des Juifs... voilà, je vous remercie.
Du coup, il y avait une première question que je n'avais pas traitée avant sur le sionisme comme antisémitisme. Oui, c'est-à-dire oui, on peut, je pense qu'on peut faire ce parallèle-là, on peut effectivement, d'autant que quand on relit Theodor Herzl, donc le père du sionisme politique, si on masquait l'auteur, mais on pourrait dire tiens, mais qui a écrit ce brûlot antisémite quoi? Theodor Herzl, c'était un juif assimilé bourgeois qui était vraiment à fond pour l'assimilation et qui était journaliste pour Der Standard, hein, pour un journal autrichien, qui a couvert le procès Dreyfus à Rennes et là qui s'est dit ah la vache, si en France le pays de l'émancipation, le pays des Lumières, il y a un tel degré de virulence d'antisémitisme. En fait, l'assimilation, c'est pas une solution possible. Donc, il faut que faut qu'on fasse quelque chose d'autre et qu'on crée un État juif sur le modèle des États-nations qui étaient en train de se fonder en Europe centrale en s'émancipant de la tutelle des grands empires. Et la manière dont il parlait des Juifs du Shtetl, donc des Juifs populaires yiddishophones d'Europe centrale et orientale, mais il les traitait de youpin, de nécrochu, de trucs. Enfin, il y avait vraiment un truc. Donc, en tant que projet de blanchité d'État-nation occidentale, etc., bah, il y a ce racisme scientifique-là qui est propre à la bourgeoisie. Et donc, il y a cet antisémitisme-là de manière intrinsèque dans le projet sioniste. Ouais, je pense, absolument. Et du coup, ouais, le sionisme comme antisémitisme, c'est aussi vrai. Je pense qu'on peut vraiment le décliner de plein de manières. Toi, je me rappelle plus de tout ce que tu as dit, mais il y avait plein de trucs auxquels je n'avais pas forcément pensé et que je trouvais très pertinent. Et aussi, là, je pense à haute voix un peu, mais il y a le fait que déjà, le sionisme était ultra méprisant pour toute l'histoire juive diasporique. Il a effacé plus de 2000 ans d'histoire juive diasporique au pluriel et il a méprisé la pratique du yiddish, du judéo-arabe, du ladino, qui est du judéo-castillan, etc., etc. Et toutes ces histoires juives, même, oui, qui étaient faites parfois de conflictualité, parfois de massacres, mais aussi de beaucoup d'ententes, notamment sur le plan de la musique. Quand même, enfin, rien que pour parler de l'Algérie. Je sais pas, Renette Loranaise, Lily Boniche, Blond, enfin il y a quand même Lynn Monti, il y a quand même plein de voilà. Et en Irak apparemment c'est pareil, les grands compositeurs de musique arabe étaient juifs. Et là moi je voudrais juste citer Feu Lily Boniche qui ne supportait pas qu'on dise de lui qu'il pratiquait de la musique judéo-arabe. Il dit non moi je fais de la musique arabe. Point barre. Donc quoi ces conneries. Mais on voulait toujours mettre en avant son particularisme d'une manière très anachronique. Le soutien, effectivement, qu'apportent les bourgeoisies occidentale à Israël, c'est tout comme tu as dit. Hein. C'est... Et moi, je suis en train d'écrire un peu sur ce que j'ai envie d'appeler le pacte génocidaire, hein, qui est une nouvelle version ou qui est une nouvelle déclinaison du philosémitisme d'État et qui est une alliance objective entre les bourgeoisies occidentales et le sionisme réellement existant, mais au profit des premiers. C'est-à-dire, faut pas croire que s'il y a une impunité de l'État d'Israël en Occident, c'est parce que les sionistes seraient aux manettes, etc. Non, c'est parce que ça correspond aux intérêts, bien compris, des bourgeoisies occidentales. Donc c'est ça qu'il faut creuser, etc. Et pour plein de raisons. Ben Soussan, par exemple, par ailleurs l'auteur infâme des territoires perdus de la République, avait dit, il y a eu procès, il a perdu, que les Arabes, peut-être l'antisémitisme dans le lait de leur mère. Quand il y a eu le 11 septembre, les ruines du World Trade Center étaient encore chaudes et fumantes, que Ariel Sharon appelle Colin Powell et dit la dinguerie suivante, vous avez Ben Laden, on a Arafat. Comme si, enfin voilà, cette manière d'essayer de mettre la résistance nationale palestinienne dans la catégorie djihadisme international, le Moufti du Rezel, bon voilà, il y a une intellectuelle sioniste qui était très influente dans les années 90-2000 qui s'appelait Lahor Batleor, pardon, et qui parlait du projet Eurabia justement, qui était très islamophobe, qui parlait déjà de grand remplacement, etc., et qui voulait donner un contenu politique d'extrême droite à l'alliance judéo-chrétienne, qui est en fait pas du tout une alliance judéo-chrétienne, ça me permet de faire le lien avec ta question sur les religions, mais une alliance bourgeoiso-sioniste. C'est ça, en fait. La religion, elle est toujours instrumentalisée pour donner du contenu, pour... même du côté du Hamas, je pense, je suis pas spécialiste, mais pour mener la résistance, qu'on soit d'accord ou pas avec les modes d'action utilisés, là, c'est un autre sujet, c'est pas ce que je veux développer ici, mais on a besoin de transcendance un peu. Et c'est pareil, le sionisme... Même quand il s'est réalisé et matérialisé avec la création de l'État d'Israël en 1948, c'était très athée, très socialiste. Alors, socialisme quand même d'apartheid, hein, pas socialiste pour tout le monde, mais quand même pour le partage de la valeur ajoutée juive, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait venir des juifs arabes, parce que fallait faire travailler des juifs, même s'ils étaient un peu arabes, mais donc il y avait une hiérarchie raciale comme ça. Bon. Je voulais dire un truc, j'ai oublié, encore une fois. Ah oui, non, sur les religions, et oui, et ce que je veux dire, c'est que c'est en 67 qu'il y a que le mouvement sioniste religieux a vraiment émergé et est devenu très fort. Pourquoi ? Parce que toutes les localités bibliques sont en Cisjordanie, toutes. Tu parlais de Al-Khalil, Hebron, Bethléem, tout ça, c'est, enfin, tout ce qui est mentionné dans la Bible, dans la Torah, c'est en Cisjordanie. Et donc, ça a fait vriller plein de gens, et il y a eu une organisation politique très forte, parce que normalement, d'un point de vue religieux, c'est fondamentalement antisioniste, parce qu'on n'a pas le droit de créer une organisation politique unitaire pour les juifs en Eretz Israël avant la venue du Messie qu'on attend toujours. Pour les chrétiens, le Messie, c'est Jésus, c'est bon, c'est acté, mais nous, on l'attend toujours. Et justement, les sionistes évangéliques, ils sont ultra-sionistes. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, pour précipiter le retour du Christ, il faut que tous les juifs soient en Eretz Israël. Et là, Jésus reviendra. Et à ce moment-là, les Juifs auront le choix, soit la conversion, soit la mort. Mais comme Netanyahou, il s'en fout, je pense qu'il ne croit pas à ce mythe, bah, il prend tous les soutiens qu'il peut avoir. Et l'islamophobie, bah, c'est une manière, c'est le racisme le plus autorisé. Et j'entends ce que vous dites, et je pense que vous êtes plein de bonne volonté, quand vous dites oui, mais on peut critiquer le catholicisme, on peut critiquer... Mais on ne peut pas faire fi non plus complètement des rapports sociaux de domination, et on ne peut pas faire comme si, depuis 15-20 ans, on faisait que cogner sur ces barbares de musulmans, et comme si c'était la même chose que de critiquer les froqués et de critiquer des gamines qui portent le voile, quoi. C'est pas la même chose. Et le racisme, c'est un rapport social qui prend bien des formes. Et la forme actuelle, la forme islamophobe. Alors, je suis pas spécialiste de la question, mais il y a plein de bonnes littératures. Peut-être que vous aussi, vous pourriez dire un mot là-dessus. Voilà.
Alors, moi, en fait, je voulais très rapidement intervenir sur... sur le fait qu'on considère, enfin que certains considèrent les masses arabo-musulmanes de façon générale ou de façon même intrinsèque comme antisémites, il y a une sortie absolument hallucinante de Jonas Pardo justement là-dessus, c'est-à-dire que il a dit les Arabes de troisième génération en France, en fait, bon ben ils sont intégrés sociologiquement en France, et du coup, comme ils sont intégrés au corps social français un peu plus, et ben ils sont moins antisémites. Par contre, tous les nouveaux Arabes qui arrivent de Syrie, d'Algérie, d'Iran, etc. Et ben eux, chez eux, comme ils sont abreuvés en fait à l'antisémitisme presque séculaire chez eux, en fait, enfin il a vraiment sorti un truc comme ça qui est quand même complètement hallucinant.
C'est
pour que quand on se dit antiraciste,
qu'avons isolé l'extrait justement.
Ah ouais, bon, ben voilà. Donc oui.
Non, et puis. C'est ça, ça encore, c'est un renouvellement d'un discours un peu gauchisé sur les bords, parce qu'il dit quand même, oui, c'est le système scolaire aussi qui fait ça dans les pays arabes, etc. Mais il y a un lien à faire avec les lois allemandes qui ont été prises cet été, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne est à la fois le pays qui accueille plus de réfugiés syriens et à la fois le pays qui a la communauté palestinienne la plus importante d'Europe. Maintenant, pour acquérir la nationalité allemande, il faut s'engager à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Donc voilà. Donc pour Pardo, comme pour le gouvernement allemand, dans le fond du fond du fond du fond, c'est ça le problème. C'est encore une fois, est-ce que on défend l'État d'Israël tel qu'il est ou pas ?
Une dernière salle de questions, du coup.
Bonsoir. Est-ce que ça serait possible de revenir sur les intérêts occidentaux justement au génocide en cours ?
Merci beaucoup pour la discussion. Vous parliez de la corbinisation de la politique et en fait, donc il y a eu des tentatives pour éviter, mais en fait... Il y a une polarisation, il y a un mouvement coordonné des médias de droite, etc. Et on y est quand même plus ou moins. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus ?
Je vais être court. J'ai une amie qui s'appelle Esther Ben Bassa qui avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Comment être juif après Gaza ?» parce qu'il y avait déjà eu des massacres. Et ce qui me trouble, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation quasi identique 10 ou 15 ans après, je ne sais plus combien de temps.
Elle a mal tourné, Esther. Mais bon, après ça, c'est...
À l'époque, peut-être c'était différent.
Ta copine, mais... mais ouais.
On n'est pas responsable de ses amis. Mais c'est juste la question, c'était... Elle mettait en avant la partition, enfin la différence qu'il y a, la différence politique entre les Ashkénazes et les Séfarades. En tout cas, c'est ça qu'elle semblait mettre en avant, avec le prétexte que, étant donné qu'ils n'avaient pas vécu le génocide, ils étaient moins légitimes à parler. Est-ce que ça continue encore et est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sont plus à droite quand on est Ashkénaze ou pas ? Merci. C'est
fini. Ouais. Alors, donc, ouais, je vais essayer de ramasser un peu tout ça et d'être un peu bref. Si je parle trop, vous me coupez le micro. Les intérêts occidentaux pour le génocide, c'est vrai que c'est une question compliquée qu'il faut travailler, que là c'est un peu mon nouveau projet, c'est d'écrire là-dessus, donc je sais pas si, j'espère que la Fabrique Montand qui vont publier là-dessus. En tout cas, il y a de plus en plus de voix dissonantes aux États-Unis qui disent, mais en fait, ce soutien inconditionnel et aveugle à l'État d'Israël, qui se traduit par l'envoi de milliards de dollars. Enfin, je veux dire, mais faut que ça cesse, parce que même c'est contre-intuitif, contre-productif, et ça nuit à nos intérêts dans la région. J'ai pas lu encore toutes les enquêtes électorales, mais quand même dans le Michigan, dans l'État du Michigan, où c'est appelé le Palestinian State, parce que c'est là où il y a la plus grosse communauté palestinienne aux États-Unis, bah, les gens n'ont pas pu voter pour Kamala Harris parce qu'il y avait ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël en plein génocide. Et qu'il y a une coparentalité, évidemment, du génocide entre les Israéliens et les États-Unis, ça c'est clair. Alors pourquoi ? Ben, il y a ce qui a été dit un peu plus tôt. Moi, j'ai plusieurs pistes, mais c'est pas non plus révolutionnaire ce que je vais vous dire, mais il y a ce côté de, ben, c'est quand même vachement confortable de comment dire, de déplacer sur les épaules des Palestiniens. La sauvagerie antisémite européenne bourgeoise de la Shoah, et que le projet sionisme réellement existant porte en lui des germes génocidaires. Quand on efface dès 48, hein, on rase des villes, on rase des cimetières, on plante des arbres dessus. Quand on efface même le passé, c'est génocidaire. D'ailleurs, c'est pas le Gaza, là, c'est pas arrivé par hasard. Donc, bon, Ehud Barak, qui était un ancien premier ministre de gauche israélien, soi-disant de gauche, donc travailliste, Avoda, il a dit qu'Israël, c'est une villa dans la jungle. Comprenez, un îlot de civilisation occidentale dans un océan trouble et sombre d'arabité toxique. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a un soutien inconditionnel des classes dominantes occidentales pour l'État d'Israël, même quand celui-ci commet un génocide, parce que c'est une extension de nous-mêmes. C'est notre avant-poste dans le Levant arabe. Puis même dans la manière dont on a présenté les victimes israéliennes du 7 octobre, on connaît tous plus ou moins des nom d'otages israéliens. Qui connaît le nom des otages palestiniens? Nous, ici, on peut, éventuellement, mais je veux dire, en règle générale. On s'est identifié aux jeunes qui dansaient pour la paix. Enfin, moi, j'ai fait quelques rêves parties quand on danse, c'est pas... Enfin, bon, bref. Mais à 2 kilomètres d'une prison à ciel ouvert, comme ça, enfin, je veux dire... comme si les Palestiniens n'existaient pas, comme si Gaza n'existait pas. Et eux, bah oui, c'est vrai qu'on a vu nos sœurs, nos filles, nos cousins, nos cousines. Mais jamais pour les jeunes Palestiniens massacrés du même âge. Donc effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose à creuser. Il y a cette idée, je pense, oui, il y a ce transfert de culpabilité qui permet de pas appliquer le plus jamais ça. Pour tout le monde, juste si on défend un autre État colonial, eh ben, c'est bon, on est quitte, on est blanchi. Il y a aussi, je pense, le fantasme, alors ça c'est la contribution de Frédéric Lordon dans le bouquin, de dominer innocemment. Israël étant un État ontologiquement innocent parce que s'octroyant le privilège d'être l'État des victimes de la Shoah, d'où, on ne sait pas, mais voilà. Alors que jusque dans les années 70, les Juifs rescapés de la Shoah en Israël, on les appelait Sabonim, Savon. Hein, faut savoir raison garder à ce sujet. Donc, il y a l'idée que la bourgeoisie occidentale fantasme l'idée de pouvoir exploiter, de pouvoir dominer tout en étant perçue comme innocente. Pardon. Et puis, il y a aussi le fait que... le bon temps des colonies, il est derrière nous et qu'il est hyper brûlant d'actualité, hyper vivant en Israël-Palestine. Donc il y a certainement ça aussi. Voilà, donc j'ai pas de réponse plus claire que ça, mais je pense qu'il y a pas mal de pistes. La guerre des civilisations, le transfert de la culpabilité et de la responsabilité plus que de la culpabilité, d'ailleurs post-Shoah, la nostalgie du bon temps des colonies et... Voilà. La corbinisation, elle a lieu, mais le processus final de la corbinisation, c'est l'exclusion du parti de Jeremy Corbyn et sa reprise en main par la droite. Donc nous, on a encore Mélenchon qui tient bon malgré tout. Et le PS n'a pas encore repris la main, n'occupe pas encore à nouveau une position de centralité à gauche. Donc la corbynisation, elle est effective, mais elle est relative. Et la corbynisation, en fait, c'est une matérialité de l'instrumentalisation sioniste de l'antisémitisme. C'est pas autre chose, quoi. C'est, voilà, on sait que quand Mélenchon dit « camper », en parlant d'Yael Braun-Pivet, bah c'est oui, ah là là, c'est une juive, donc camp d'extermination, donc c'est antisémite. Donc le RAR publie un communiqué pour dire que non seulement c'est problématique, mais que si vous n'avez pas compris que c'était antisémite, c'est vous le problème aussi. Donc comme ça, voilà, c'est longue vie le débat d'idées. Voilà, donc pour lutter aussi contre la corbynisation et pour une gauche de rupture qui soit un tantinée conséquente sur la question palestinienne, bah, il faut lutter contre l'instrumentalisation sioniste de l'antisémitisme, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le bouquin. Mais bon, on a du boulot et c'est pas fini. Et la question des juifs arabes, je suis pas sociologue de la société israélienne, pendant très longtemps, effectivement, les juifs arabes ont été parqués dans les zones tampons à portée de tir des snipers égyptiens et des snipers jordaniens. Quand Jérusalem-Est n'était pas encore annexée, par exemple, c'est vrai qu'on les mettait près du No Man's Land, comme ça, à 15 dans des 20 mètres carrés. Bon, il y a eu d'ailleurs un mouvement des Panthères Noires, Black Panthers, en Israël. Et j'ai eu le privilège d'ailleurs, parce qu'il y a une partie qui a bien tourné, qui a créé des liens, des ponts avec... le mouvement national de libération palestinien et d'autres qui sont fait récupérer par la droite israélienne, parce que traditionnellement, la gauche qui gouvernait Israël, c'était la gauche blanche ashkénaze. Donc forcément, la droite a sauté sur l'occasion pour faire monter des figures juives arabes, pour faire la même chose, mais en fait pour garder le pouvoir. Maintenant, tout est... Bon, y a encore plus de juifs arabes dans les prisons que de juifs ashkénazes. Mais il y a plein de mariages mixtes, la culture se diffuse, c'est moins problématique qu'avant. Et encore une fois, je pense que le racisme, un peu comme ce que j'avais dit sur... puis je terminerai vraiment là-dessus. Un peu sur ce que j'avais dit sur la racialisation positive des juifs ici. C'est-à-dire qu'il y a une racialisation positive maintenant des descendants de juifs arabes en Israël, qu'on appelle Mizrahim, qui est en soi ultra-raciste, qui veut dire orientaux. Alors, quand on parle surtout des Marocains, quand même, alors qu'on est en Israël, ce qui montre bien que la boussole, elle est idéologique, elle n'est pas géographique. Hein, c'est par rapport à la blanchité que c'est oriental. Enfin, bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire encore une fois. Je fatigue. Je me suis levé à 5h du matin, je suis désolé. c'est pas grave, voilà, tant pis. Désolé.
Merci beaucoup. Merci Basile, Assia. Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.